Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Edith de Préto, c'est violent et doux, cru et littéraire, scandé et lyrique, rugueux et sensuel. Il y a de la rage dans sa mélancolie frissonnante et de l'espoir. Avec ce nouvel album baptisé « À tous les bâtards », Edith de Préto a voulu remettre son cœur en vente. Lorsqu'il s'agit d'amour, ça saigne toujours. Le premier album, Cure, a été certifié triple album de platine. À tous les bâtards mérite amplement le même destin.
Europe 1.
Bonjour Edith Préto.
Bonjour.
Edith Préto, est-ce que ça soigne la popularité? Est-ce que ça guérit un peu? Est-ce que ça met sur pause les angoisses de la popularité?
Non, ça ne met pas sur pause les angoisses, ça en rajoute d'autres, je dirais, mais ça assouvit certaines.
Ouais.
Apaise certaines et ça en accentue d'autres. Un peu comme toute réalisation, je crois.
Alors, vous dites ça, on assouvit certaines, c'est-à-dire dans certaines, il y a...
Ayant connu un certain succès sur un premier album, en tout cas une entente et une rencontre avec un public, j'ai forcément envie et la peur que tout se repasse pareil, voire plus. J'ai pas envie que ces émotions, ces extrêmes partages et cette extrême bienveillance s'échappent d'un coup d'un seul.
Eh bien sûr. Alors, justement, avec ce nouvel album, À tous les bâtards, vous avouez, je viens remettre mon cœur en vente. En fait, vous avez aussi peur qu'au début de l'aventure, il y a 3 ans. Et peut-être même plus.
Ah bah plus, ouais. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais un peu innocent encore. Je ne savais pas ce qui allait arriver. J'avançais, tout était découvert. Chaque CD vendu ou chaque stream cliqué était pour moi une folie. Et je prenais tout. Aujourd'hui, même si je prends tout, je sais ce qui me fait plaisir. Je sais où sont mes attentes, un peu plus en tout cas que le premier.
L'album a pour titre « À tous les bâtards ». Ils sont nombreux, les bâtards. Qui sont-ils?
Je crois qu'on est tous un peu bâtards. Il y a toujours un peu de bigarrerie, de bizarrerie en nous, dans chacun d'entre nous. Et la beauté de cet album, pour moi, c'est d'avoir pu la décortiquer, la mettre en avant et la mettre sur un étendard, sur un piédestal pour la faire briller au maximum, cette bizarrerie et cette bâtardise.
La faire briller, hein, comme on polie les choses.
Exactement, voilà. Polir la bizarrerie, la bâtardise.
Bon, alors, paria. Moche, étrange, chelou, bâtard, bizarre. Déjà, Baudelaire écrivait « Le beau est toujours bizarre ». Et il écrivait ça en 1855. Et 30 ans plus tard, d'ailleurs, Baudelaire nuançait « Le beau est toujours bizarre, ardent et triste ». Vous partagez ce sentiment, Edith de Préto?
Totalement. Et je ne suis pas le seul, il y a aussi Christophe qui avait écrit « Le beau
ouais,
bizarre », magnifique chanson.
Inspiré par Baudelaire d'ailleurs.
Peut-être inspiré par Baudelaire, sûrement. Et en effet, c'est quelque chose qui, assez naturellement, même d'ailleurs sans avoir lu Baudelaire, il y a quelque chose qui, comme ça, comment faire d'un stigmate ou de quelque chose qu'on pourrait dire dans nos sociétés qui est un peu un poids, quelque chose d'un peu plus lourd à porter, en fait, une véritable arme pour être beaucoup plus positif et le prendre du bon côté, quoi. Mmh. J'ai envie de croire que nos bizarreries soient tout entendues et toutes distinctives et aussi belles les unes avec les autres.
En tout cas, vous employez pour ça. Alors, cet album, À tous les bâtards, il paraît que vous l'avez écrit pendant que vous dévoriez l'intégrale de Léo Ferret, Les Chants de la Fureur.
C'est vrai.
Travailler face au texte de Léo Ferret, c'était comme entrer en conversation avec lui.
Ça m'a aidé, je sais plus qui m'a offert ça, le gros livre où il y a toutes ces chansons, tous ces écrits.
Ouais.
Et ça m'a grave aidé dans l'écriture. Dès que j'avais une panne d'inspiration, c'est drôle, c'était assez instinctif, j'avais beau ouvrir à n'importe quelle page.
Voilà, tout s'éclairait.
Tout s'éclairait. La folie de ce livre.
Et il n'y avait pas, pendant que vous écriviez, il n'y avait pas que Ferret qui vous accompagnait. Vous avez lu les sonnets érotiques de Verlaine et de Rimbaud. Sur votre album, d'ailleurs, le morceau intitulé « La zone » pourrait figurer dans leur recueil érotique.
En tout cas, ça a été une référence, une influence. Je suis allé voir ce qui avait été écrit là-dessus. J'avais vu ça de Verlaine et Rimbaud, le sonnet du trou du cul qui m'avait vachement plu et accroché.
Écrit en 1871, c'est ça ?
Exactement. Et, Et je me suis dit, mais je veux aussi jouer sur ce double sens-là. Je veux avoir une chanson qui traite ça.
Très, très audacieux.
Je ne sais pas si c'est encore audacieux aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ça me paraissait essentiel de pouvoir...
Vous connaissez beaucoup de chansons qui traitent ça aujourd'hui ?
Alors,
qui
non.
Qui passent en radio ?
Non.
Qui sont gravées comme ça
Il paraît qu'on m'a du coup parlé d'une certaine de Bachoum qui parle aussi d'un peu de ça à son époque.
Oui.
Mais je ne la connaissais pas. Mais non, en effet, c'est un peu caché.
On en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer cette conversation et avant que les micros ne se mettent au rouge, et vous regardiez sur votre portable, vous étiez reparti justement dans la littérature érotique de Verlaine et Rimbaud.
Ouais, bah j'ai recliqué parce que je ne m'en rappelais plus exactement du poème, et c'est vrai qu'il est magnifique. Je vous en lis un bout.
Allez.
Obscur et froncé comme un œillet violet, il respire humblement, tapis parmi la mousse. Humide encore d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments pareils à des larmes de lait ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse, à travers de petits caillots de marne rousse pour s'aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'aboucha souvent à sa ventouse, mon âme du coït matériel jalouse en fit son larmier fauve et son nid de sanglots. C'est l'olive pâmée et la flûte câline, c'est le tube où descend la céleste praline, chanane féminin dans les moiteurs enclos.
Verlaine Rimbaud, 1871. Mais il faut écouter La Zone sur le nouvel album d'Edith de Préto, qui est comme en résonance avec ce texte-là. Alors, chère Edith Préto, comme beaucoup d'auteurs, vous redoutez, paraît-il, cette période qu'est la phase d'écriture. En fait, vous préférez avoir écrit plutôt qu'écrire, c'est ça ?
Ouais. Moi, je préfère les conséquences de l'écriture.
Voilà.
Ouais. Pourquoi ? Parce...
C'est douloureux, cette phase d'écriture.
Il faut aller chercher en soi, quoi. J'ai pas d'apaisement, en tout cas, dans l'écriture. Trouver des sujets, je me challenge toujours. Donc, il faut chercher des sujets qui n'ont pas déjà été traités, avec un regard inédit, avec ma subjectivité, mais comment la détourner pour qu'elle soit assez clinquante, assez frontale, assez brutale. Donc, c'est un travail de recherche. Et donc, parfois, souvent, c'est pas toujours une partie de plaisir. Et puis, il y a surtout une crainte aussi, c'est de remettre tout en vente, de remettre aussi son savoir-faire en question. Si on se remet devant sa feuille, on se repose, est-ce que je suis capable là d'écrire une chanson ? Et s'il y a un échec, si j'arrive pas ce jour-là pour pas d'inspiration, pour quelconque raison, pas tout déconstruire, pas tout se dire mince, je sais plus écrire. Et en fait, c'est tellement, tout tient tellement sur un fil, l'inspiration, rien n'est gérable finalement. Et donc c'est
elle
toujours...
Vient vous cueillir. Voilà. Si elle le veut.
Si elle le veut.
Mais nous, on était très nombreux à attendre le nouvel album. Alors, votre maison de disques, paraît-il, ne vous mettait pas trop la pression, mais il paraît que votre mère, Edith de Préto, vous disait « Bon, on ne t'entend plus à la radio en ce moment, on ne te voit plus à la télé, c'est fini ou quoi ?»
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai ?
Ben ouais, c'est ma mère et même les fans sur Insta qui m'envoyaient des messages « Bon, alors, c'est quand que ça ressort ?» qui mettaient cette pression-là. Et ma mère ne me voyait plus à la télé, elle disait « Bon, ouais... » Ça y est, c'était que pour un album.
Oh. C'est effrayant. Bon, l'album co-réalisé avec Charlie Trimbur a vraiment des envolées planantes, des nappes harmoniques qui sont belles, fortes, ça sonne. Et vous ne rappez, j'ai envie de dire presque plus, vous chantez avec une voix très brillante.
Ouais.
Vous osez.
J'ai toujours adoré chanter et c'est vrai que j'ose dans ce deuxième album le faire. J'ai commencé en Maison pour tous à Créteil où je chantais I Believe I Can Fly, donc c'était très très vocalisé, très mélodieux. Après je suis passé par une phase pour mon premier album où j'avais envie d'être plus scandé, plus direct dans les mots, sans forcément de mélodie.
Et là c'est très tonal.
Ouais, la nécessité,
avec
voilà.
Avec plein de nappes d'armo très belles.
Voilà, des mélodies, des ouvertures. J'ai beaucoup travaillé plus ça parce que je le sentais assez naturellement. J'avais besoin de cette ouverture et de ce côté aussi beaucoup plus ouvert et épique un peu dans ces mélodies-là.
J'ai 1000 questions à vous poser, chère Edith Préto. Donc on fait une pause très très courte. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Edith de Préto, à quel âge vous êtes-vous rendu compte que le modèle en fait, de masculinité et l'injonction à être viril que vous vendez à la société et vos parents, vous correspondaient Absolument pas.
Quand j'ai eu la maturité un peu pour commencer à le déconstruire, donc je crois que j'avais 20 ans.
Ouais.
Je commençais à avoir une vie à Paris, donc à me couper de mon berceau familial où j'avais grandi à Créteil. Et donc forcément, là, il y a des nouvelles rencontres, des nouveaux sujets, des nouveaux débats, des nouvelles...
À partir de là, on ne fait plus semblant, mais vous êtes en train de dire que quand vous étiez sur le terrain familial, là, vous étiez obligé...
On fait toujours un peu semblant.
Oh,
bien sûr.
C'est vrai.
C'est le but, ouais, je crois. Non. On ne sait pas.
Même vous ?
Oh,
non,
oui.
Plus maintenant.
J'essaie de déconstruire tout ce qui... Mais bon, j'ai toujours les restes de là où j'ai grandi. C'est en moi, je veux dire.
Mais alors, faire semblant, c'est aller jusqu'où, Eddy de Pretto ?
Le masque.
Pour ne pas heurter,
ouais.
Mais c'est quoi ?
Pour se protéger aussi.
Aussi ?
Bien sûr. Je décide de tout mettre dans des chansons, mais je ne vais pas tout donner tout le temps, partout.
Alors, vous avez grandi en banlieue, à Créteil. En fait, qui de votre papa, chauffeur de poids lourd, ou de votre maman, a senti le premier que son fils unique, hein, je crois, vous n'avez pas de frère ou de sœur, écrirait donc son histoire dans la marge, et l'écrirait de toutes les manières possibles et imaginables qui lui conviendraient à lui. Lequel l'a deviné en premier ?
Ma mère m'a toujours dit, elle me disait toujours une phrase, même pour les devoirs ou quoi, « Ah, tu veux jamais que je t'aide, ou tu veux jamais de conseils, c'est toujours un peu qu'à ta tête. »
Tu n'en fais qu'à ta tête.
Ouais, et j'étais ce petit garçon hyper têtu qui savait où il voulait aller et qui n'avait pas besoin d'aide. Et donc ça énervait beaucoup les grands.
Et vous aviez quand même dans la famille une soupape de sécurité avec la tante Alice, n'est-ce pas, la sœur de votre maman.
Exactement.
Exubérante, complètement décomplexée.
Ouais.
Elle avait eu une vie romanesque, la tante Alice.
Elle était parisienne, la décadence, la folie, l'exubérance, la liberté.
Elle avait osé mille choses.
Elle avait plein d'histoires à raconter et elle me permettait de penser que je pouvais être la personne que je voudrais être totalement.
On se souvient de vous à Créteil, Eddy de Pretto. Voilà, quand vous arrivez, alors c'est la star.
Une fois, bien sûr, quand je retourne, on me reconnaît bien sûr dans la rue, ouais.
Alors, il paraît que c'est votre maman qui vous a inscrit à un cours de théâtre quand vous aviez 11 ans. Elle a perçu cette fibre artistique. Et puis, elle l'a facilement perçu aussi parce qu'il paraît que vous détestiez le foot, quoi.
Je détestais le foot, j'étais très mauvais au basket. Donc, on avait tout essayé un peu. Et puis, le théâtre est venu. Ouais. Ma mère m'a dit, peut-être le théâtre, ça serait bien. J'ai essayé, ça m'a plu tout de suite, quoi.
Vous auriez pu devenir acteur.
Je pourrais peut-être aussi devenir acteur.
Mais quand je dis ça, il faut entendre derrière consacrer toute une vie au jeu plutôt qu'à la musique.
J'ai toujours préféré un peu la musique parce que ça racontait un peu plus de soi et qu'il y avait un peu plus de mes histoires personnelles dans ce que j'avais envie de défendre. Après, l'acting et le théâtre et surtout... le plateau m'a toujours plu et excité. J'aurais été ravi et je serais ravi de faire jouer une pièce de théâtre.
Je pose la question, mais on va creuser ça en fait, parce que je sais que vous avez fait du théâtre et surtout avec le disciple de ce concept qu'est le théâtre total. On va raconter ça tout à l'heure, mais je reste sur l'adolescence, Eddy de Pretto. Chez votre maman, la bande-son dans l'appartement, c'était Dalida, Brassens, Brel. Et puis en bas de l'immeuble, c'était MC Solar, Diams, Booba. Donc vous avez mixé et digéré tout ça.
Voilà, j'étais le hall entre les deux. J'étais le entre-deux, entre-deux styles. Et j'ai essayé de... Vu que c'est des choses qui étaient en moi, vu que ça a été mon environnement culturel, de fait, c'est resté dans mes veines et dans ma composition et dans ce que j'avais envie de défendre.
Mais forcément avec des préférences. Par exemple, les préférences dans ce qu'écoutait le répertoire de votre mère.
Barbara.
C'était Barbara.
Ouais. Barbara. Et puis en bas, c'était Diams.
Ouais. Mais... Il paraît que vous avez toujours refusé d'avoir des idoles, Eddy de Pretto. Vous vous interdisiez d'être un fan.
Ouais, c'est vrai ça.
Mais c'est assez étonnant quand même. Ça signifie que vous saviez qu'un jour, ce serait vous qu'on écouterait, c'est ça ?
Je crois que j'avais lu dans un truc de merde, un fan 2 ou un truc, tu sais, les magazines. Si tu es fan un jour, tu seras fan toujours. Et moi, j'étais là, mais non, je ne serais
la
pas
phrase terrifiante.
Fan. Je ne serais jamais fan. Je serais l'idole.
Voilà, je serais l'idole.
Quand j'étais petit, je me disais ça, bien sûr.
Et pour être l'idole, il faut rester vierge de toute influence consciente pour pouvoir créer avec son propre carburant.
Voilà, il faut tenter d'être l'exemple soi-même, d'être le moteur soi-même et pas d'être motorisé par d'autres exemples qui potentiellement seraient trop influençables.
Vous saviez, à 15 ans, que votre destin serait différent de celui de vos copains. Vous le saviez.
Je savais que j'étais différent, mais je savais que je voulais me réaliser de cette manière-là, et je savais que je pouvais m'en donner les moyens. Ouais. J'étais tellement persuadé que de suivre et d'en faire qu'à ma tête, ça peut marcher, ça pourra marcher. L'instinct, vous savez, c'est l'instinct intérieur, ouais. Quoi. Il y a un truc dans les tripes, c'est comme ça. Et donc, j'ai fait confiance à ça, en fait. Je fais toujours confiance à ça, d'ailleurs.
Il a fichtrement raison. Et tant mieux pour nous d'ailleurs, puisque voilà, on reçoit le nouvel album qui a pour titre À tous les bâtards. On s'interrompt un bref instant, on retrouve tout de suite Eddy de Pretto.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le nouvel album d'Eddy de Pretto est audacieux. Il est fort et doux, il est cru et planant. Vraiment à écouter en boucle. Il a pour titre À tous les bâtards. Et cet après-midi, eh bien, on se promène avec Eddy de Pretto. Eddy, avant de vous consacrer à la musique, vous êtes passé par la danse et surtout par le théâtre en travaillant avec Joël Pommerat, qui est un auteur et metteur en scène couronné de plusieurs Molières et dont les pièces sont très ancrées dans le monde contemporain. Voilà, c'est un auteur et metteur en scène qui est vraiment un disciple du théâtre total. Mais alors, quand on entend cette formule-là, on se dit, c'est quoi le principe du théâtre total ?
En fait,
comment vous vous êtes-il travaillé, Joël Pommerat ?
Moi, il m'a pas fait travailler directement, attention.
Ah, d'accord.
J'ai adoré le théâtre de Joël Pommerat.
D'accord.
C'était une grande référence.
Vous avez travaillé sur ses pièces.
Sur ses pièces, bien sûr.
En reprenant les mises en scène qu'il avait élaborées autour.
Bien sûr, avec mes profs, on reprenait du Pommerat. Bien sûr, de temps en temps, comme on a repris du Coltès, du Ranger, de pas mal d'autres auteurs. Parce que j'ai fait une formation théâtrale qui m'a permis d'avoir un arc de formation assez large.
Dans quelle école alors ?
J'étais dans l'Institut supérieur des arts de la scène, dans le 9e.
Oui.
C'était Undo Stress, High School Musical, comme vous préférez, de 8h à 20h. On faisait de la danse. Le matin, on avait 2 heures de danse classique.
Wow.
Et puis, on terminait le soir avec des cours d'interprétation, du chant.
C'était fame.
C'était fame, voilà, si vous voulez. Moi, c'est plus High School Musical, mais...
Chacun sa génération.
Exactement.
On ne se moque pas. Hein.
Non, pas du tout.
Mais ça vous aurait intéressé d'intégrer un conservatoire de théâtre classique où là, vous picoriez...
J'ai passé les concours. Ils ne m'ont jamais pris.
Ils ne vous ont pas pris, tant pis pour eux.
Non, mais j'avais une bonne note. Je crois qu'il fallait avoir un A, j'avais eu un B ou un... J'étais passé à ça.
Bon, c'est frustrant de passer, ou de ne pas passer à ça. Et Eddy de Pretto, en tout cas, votre présence sur scène et dans les clips, elle doit, à votre avis, à tout ce travail fait dans cette école, à toutes ces disciplines que vous avez pratiquées, ou bien c'est quelque chose que vous possédiez de toute façon en vous ?
Non, j'imagine que la formation m'a aidé aussi à être plus agréable et plus à l'aise avec la caméra, et puis savoir se grandir. Moi, j'avais une prof qui me disait, une de mes premières profs, que l'énergie, elle devait aller jusqu'au bout des doigts, à chaque phrase, à chaque mot, tout le corps doit être investi. Et donc, je pense que ça, sur scène, quotidiennement, ça m'aide.
Et dans les clips aussi.
Sur scène et dans les clips aussi.
Bien sûr.
Bien sûr.
Alors, vous avez commencé à faire l'acteur avant de chanter, et puis vous avez même joué. Alors ça, c'est charmant parce que j'ai cherché comme ça sur mon iPhone et j'ai retrouvé la pub où on vous voit en Jules César très juvénile. Voilà, c'était une pub pour CanalSat. Vous faisiez beaucoup de casting à l'époque.
Je faisais pas mal de casting. Ma mère m'avait inscrit à une agence de publicité.
Oui.
Et donc j'avais fait pas mal de casting. Oui, celui-ci, je l'avais eu.
Bah, vous l'aviez
eu. J'étais trop content.
Mais oui, et alors, c'était en fait très bien mise en scène, c'était drôle, ouais, avec une post-prod étonnante. Et alors, quand on vous voit en très jeune, Jules César de 16 ans au balcon avec ses troupes, voilà, plus bas, voilà. Incroyablement sexy.
Je n'ai pas changé, regardez.
Non, je toujours, toujours aussi sexy.
Tout aussi juvénile.
Et puis en 2012, alors là, autre exercice, Eddie de Pretto, on vous retrouve dans, toujours, voilà, incroyablement jeune, on vous retrouve dans le film Paulette avec Bernadette Lafont.
Oui, le dernier film.
Mais voilà, et avec Carmen Mora. Vous en gardez quel souvenir de ce tournage, le dernier tournage de Bernadette Lafont?
Ouais, j'avais un tout petit rôle, je me rappelle. Et puis Bernadette Lafont, elle était Bernadette Lafont, quoi. Je crois qu'elle fumait dans sa loge. Il y avait un truc un peu voilà quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a toujours aimé marcher hors des clous.
Ouais, carrément.
Et ça lui a bien réussi.
Totalement même. Et du coup, j'avais une toute petite scène avec elle et c'était une de mes premières expériences cinéma et ça m'avait grave marqué, fait par Jérôme Enrico.
Oui, exactement, exactement. Et le film avait eu un excellent accueil critique.
Ouais, j'étais ravi, écoutez, de faire ce petit... mais ça dure vraiment 35 secondes, quoi.
Oui, mais tout de même, parce qu'il s'agissait d'un joli film. Mais alors, Eddie de Pretto, quand et sur quel déclic vous êtes-vous mis enfin à écrire des chansons?
Le déclic, il m'a été personnel. Je savais que j'avais envie de me raconter, de monter sur scène. Et je savais qu'en étant que interprète, en racontant les histoires des autres et pas les miennes de mes tripes profondes, ça pourrait pas marcher.
Vous saviez en fait d'instinct que l'aventure tournerait court si vous ne chantiez pas vos propres mots, c'est ça ?
Exactement, exactement. Je savais qu'on verrait la supercherie, je ne serais pas hyper authentique, je ne raconterais pas mes propres histoires et que je me cacherais derrière un potentiel masque d'une histoire de quelqu'un d'autre.
Vous avez commencé à écrire sans le dire à personne ?
Ouais. Mais je me suis forcé à écrire parce que c'était pas comme une partie de plaisir.
Comme une thérapie.
Comme une thérapie, ouais, ça m'a grave aidé. Je me suis dit, un de mes premiers textes c'était sur la relation avec ma mère, une chanson qui s'appelait...
Qui a vu le jour d'ailleurs.
Qui a vu le jour sur le premier album, mais c'était pas la même.
C'était une obsession. Alors la première version elle était beaucoup plus...
Ouais, beaucoup plus deep. Et elle s'appelait Alors je pleure.
Ouais. Bon, la maman ne l'a pas lu, la première version.
Non, mais c'était très très mal écrit. Hein. C'était vraiment horrible.
Allez, on va dire ça. Bon, en tout cas, la route qui vous a mené jusqu'à nous, public, la route, elle a quand même été assez longue, sinueuse, elle a été formatrice, elle a été pleine de frustration aussi. Quand il s'est agi de chanter sur les bateaux mouches, les standards d'un autre temps devant des touristes souvent indifférents. Alors voilà, on retrouve tout de suite Eddie de Pretto.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Il n'est pas porte-drapeau, il n'est pas donneur de leçons. Ce garçon a la mélancolie heureuse et parfois torturée, dont le répertoire est âpre et pourtant lyrique, qui veut juste être lui. Eddie de Pretto, qui revient avec un nouvel album, À tous les bâtards. Eddie de Pretto, avec une certaine malice, c'est évident, vous avez confié au journal Elle le mois dernier, aujourd'hui pour les jeunes, je suis Étienne Dao. Vous pouvez nuancer?
Ah oui, j'ai dit ça?
Oui.
Je dis n'importe quoi.
Il avait fumé.
Ah ouais, je pense.
J'ai lu ça écrit en gros caractères dans Elle.
Mais là, alors, je devais peut-être potentiellement dire que les générations vont vite et que je ne sais pas si sur TikTok... je ne sais pas si je suis une bonne musique pour faire des chorés sur TikTok. Voilà.
Bon, allez, on va dire ça. Voilà. Alors, on va reprendre le fil de votre histoire qui est, il faut bien l'avouer, étonnamment romanesque, Eddie de Pretto. J'évoquais, juste avant la petite coupure musicale, le chapitre des bateaux mouches. Eh bien, pendant 3 ans, avant d'enregistrer votre premier album, vous avez vécu une expérience aussi constructive que frustrante, qui consistait à chanter un répertoire de cartes postales pour ces touristes indifférents qui dînent sur les bateaux mouches. C'était surréaliste, c'était radical, c'était cruel, mais c'était très intéressant, j'imagine.
Ah ouais, c'était ingrat mais hyper formateur, ouais, de tous les soirs chanter autour de table de gens qui soit se regardent pas, soit disent encore plus ou prennent des selfies. Il y avait chaque soir une réaction différente, un public différent, et ça m'a construit un ressentiment public hyper fort, bien sûr.
Parce qu'ils ne font pas que ne pas regarder celui qui chante pour eux. Parfois aussi, ils dînent sans se regarder eux-mêmes.
Ah oui, bah bien sûr, ils regardent les monuments. Il y avait des gens qui ne parlaient pas entre eux. C'était des espèces de couples, parfois, qui n'avaient rien à se dire. Bah, il y a cette réalité-là aussi, parfois, quand on est en couple.
Terrifiant.
Terrifiant.
Bon, mais alors, comment s'était passée l'audition, Edith Preto, l'audition pour décrocher ce job?
L'audition, eh ben, c'était une copine qui m'avait appelé. Je cherchais à gagner ma vie,
bah oui,
pour payer mon loyer, loyer,
bien sûr,
et pour vivre ma première vie à Paris. Et donc du coup, j'ai une copine qui me fait que elle travaille sur les bateaux, elle a une place qui se libère et que elle fait des castings, la directrice artistique. Et je vais sur les bateaux, j'étais très stressé, il fallait préparer 3-4 chansons, 3-4 reprises. Et puis, quelques jours plus tard,
Vous doutiez bien qu'il ne fallait pas leur chanter du Booba pour être pris au casting.
Ça, c'est sûr.
Bon.
Donc, je chantais du Nina Simone,
voilà.
Et du Edith Piaf.
Ah, bien vu.
Et j'avais, quelques jours plus tard, une réponse positive.
Alors, le répertoire, effectivement, parlons-en, il était balisé avec un timing immuable. Hein. Vous deviez, paraît-il, chanter l'Ave Maria devant Notre-Dame,
ouais.
La Vie en Rose devant la Tour Eiffel,
ouais.
Good Morning America devant la Statue de la Liberté. En fait, vous chantiez la bande-son d'un documentaire de cartes postales, tous les soirs.
Exactement, exactement. C'était Lily in Paris. C'était le côté très parisien, cliché.
Cliché qu'ont seulement les touristes étrangers.
Exactement. Mais il y avait quand même aussi des régionaux qui venaient pour dîner, pour des anniversaires, des anniversaires de mariage également, et qui adoraient aussi passer la soirée avec des standards un peu de la musique que tout le monde identifie en vrai.
Mais alors vous, Edith Preto, vous n'aviez pas des pulsions de rébellion, l'envie d'entonner soudain, pendant que tout le monde était concentré sur son assiette, un titre d'Iggy Pop, de Booba, de Diams,
ouais,
sauter sur la table.
Ou mes propres chansons.
Parce que vous en y écriviez déjà.
Ouais, c'était le début, c'était le début. Si, parfois j'avais envie de dire, arrêtez tout, je suis là. Mais en vrai, t'es tellement dans le cadre, et on te dit tellement le rôle que tu as à cette place au moment donné, que tu le prends et tu sais jusqu'où s'arrête ce moment-là. Tu as des rêves parfois, mais tu sais que tu vas passer les étapes de ces bateaux et tu vas aller plus loin.
Bien sûr. Mais en attendant, comment trouve-t-on tous les soirs le goût de chanter en étant infidèle à soi-même?
Ah, ça c'est dans les entrailles, c'est du challenge personnel.
Voilà.
Il y avait la volonté aussi de pouvoir gagner sa vie, malheureusement, enfin heureusement, c'était quelque chose qui me rapportait de l'argent, qui me faisait mes premiers cachets, donc ça c'était une des motivations. Et puis chaque soir, les équipes changeaient en vrai. On avait deux musiciens derrière nous, un bassiste, un clavier, ou parfois c'était un clavier et une guitare.
Oui.
Et donc du coup, ça tournait, donc chaque soir, on avait un trio différent. Donc
ouais.
Des gens différents,
ouais.
Donc des rencontres, et le public changeait aussi, il y avait une bonne ambiance avec les serveurs aussi, donc chaque soir il y avait des ambiances différentes en fonction des chefs de rang aussi,
ouais.
L'ambiance pouvait être folle, il y avait des chefs de rang qui criaient « Allez, on y va messieurs, dames !»
Mais vous n'avez jamais fait ce que vous faites dans le clip « Bateau Mouche » qu'on voit tourner sur les chaînes musicales.
J'aurais adoré, mais...
Bon, alors donc, en fait, vos journées, ben voilà, dans la journée, vous écriviez vos textes, vous composiez vos futurs morceaux, et puis le soir venu, vous mettiez le costume et la cravate.
Exactement, le nœud papillon.
Le nœud papillon.
Ouais.
Mais alors, à cette époque-là, vous n'aviez pas la fameuse coupe au bol?
Non.
Voilà, que tant de garçons... non, vous étiez coiffé vraiment pas une raie sur le côté, quand même.
Non, je crois que j'avais les cheveux en arrière à l'époque.
Gominé.
Non, pas gominé.
Je vous provoque.
Je sais même plus comment on appelle ça. Juste les cheveux en arrière, je crois.
Bon, et puis un beau jour, Edith Preto, ce qui doit s'enclencher s'enclenche. On est en 2016 et vous débarquez sans prévenir sur le net avec des titres qui interpellent immédiatement. En fait, c'est comme ça qu'une maison de disques vous a repéré.
Ouais, en parallèle, il y avait des premiers titres sur YouTube. Il y avait quoi? Il y avait Je faisais des scènes aussi à Paris. J'ai fait tous les caves et tous les cafés-concerts de Paris en parallèle.
C'est vrai.
Avec mes premiers textes. Donc, le Trois Baudets, le Gambetta Club, c'est des petites scènes à Paris, vers Pigalle et tout.
Et vous chantiez 4-5 titres. Et je
chantais piano bar, 4-5 titres avec mes amis, mes invités. Et puis un soir, on va dire qu'il y a eu l'alignement des planètes. Quelqu'un a vu les vidéos sur YouTube, a vu qu'il y avait une date, est venu me voir. Et en fait, ça s'est... après, on a travaillé ensemble et ça s'est débloqué.
Waouh. Bon, alors, la porosité des genres, l'injonction à la virilité, l'homosexualité, les normes imposées. Vous avez mis tout ça au cœur de vos chansons avant que ça ne s'installe au cœur du débat sociétal actuel. Mmh. Il paraît que la veille de la sortie de Kid, titre phare du premier album, donc en octobre 2017, mais il paraît que vous étiez en pleurs dans votre chambre. Pourquoi ?
J'avais peur, quoi. Parce que c'était un discours en 2017. On dirait qu'on parle d'une autre époque, mais en 2017, la virilisation des garçons et la construction des garçons de cette manière-là n'avait pas encore été pointée du doigt et reprochée en musique à ce point-là. Et j'avais peur du discours qu'on me dise mais dégage de là, mon gars. On est viril et c'est très bien. J'avais peur, en fait, de la réception de ce discours-là.
Donc, vous avez été submergé par le triomphe de cette chanson.
Et ben après, ça a été la bienveillance folle de folie, en fait. Donc, ça m'a fait grave plaisir. Et ça m'a apaisé par rapport à toutes mes craintes, parce que je me suis dit qu'il y avait une place pour ça. Et que... Après, tout s'est déroulé, en plus. Il y a Victoire Tuaillon qui avait fait un podcast là-dessus. Olivia Gazalet, 2-3 mois après, sort Le mythe de la virilité, où elle déconstruit aussi ces genres et ces normes-là.
Oui, c'est-à-dire tout le monde s'est emparé, finalement, de ces questions-là.
Bah après, c'était limite 2017-2018 ont été des vraies questions en France sur la virilité de nos garçons. C'était plus qu'un discours de femme de on veut prendre aussi l'égalité, mais c'était aussi un discours d'homme de se déviriliser pour arriver à une égalité quand même. Et ça va dans les deux sens pour moi.
On retrouve tout de suite Eddy de Pretto.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet.
Le nouvel album d'Eddy de Pretto a pour titre « À tous les bâtards ». On en est. Eddy de Pretto, l'album précédent, « Cure », vous a propulsé tel un phénomène. Il a été certifié triple album de platine, nommé plusieurs fois Victoire de la musique, permettant des concerts gigantesques jusqu'au Canada. Mais tout, chaque fois, tout est remis en jeu avec un nouvel album. La question qui vous obsède en ce moment, c'est « Est-ce qu'on va m'aimer aussi fort ?» C'est ça.
Ouais, ça fait partie des questions. Ouais.
Bon, vous avez quand même le début de réponse là, avec la manière dont démarre
ça part très bien.
À tous les bâtards.
Je suis très content, je suis très content. Mais vous savez, quand on est aimé, on en veut toujours plus de l'amour.
C'est terrifiant ça, hein.
C'est terrifiant. Ouais, c'est vrai que c'est terrifiant.
Bon, Eddy de Pretto, sur ce nouvel album, À tous les bâtards, vous fédérez tous ceux qui se posent les questions. Vous vous êtes posé sur l'identité et qu'est-ce qu'être un homme. Mais franchement, vous n'êtes pas nombreux dans la musique à démonter les mythes, à oser déconstruire dès qu'il s'agit de sexualité.
Ça,
dans la
sûr.
Musique, hein, on n'est pas nombreux.
Surtout chez les hommes, il n'y en a pas beaucoup.
Bah, c'est ça, parce que... Alors, si on prend le versant féminin, il y a Christine de Christine and the Queen, il y a Oshi, mais chez les garçons, il y en a peu, très peu. Vous êtes le seul ?
On laisse le blanc. Je ne sais pas si je suis le seul. Il y a Philippe Catherine, peut-être qu'il le fait de manière un peu plus
Dans l'autodérision.
Dans l'autodérision.
Avec malice.
Voilà, avec malice et avec beaucoup de rire. Ouais.
Comment vos parents vivent-ils la mise en lumière des choix intimes de leur fils ? Le fait que ces revendications deviennent des chansons qu'on entend partout à la radio ?
Ma mère est très fière. Beaucoup de fierté. Ouais. Beaucoup, très contente. Elle me revoit dans les médias, elle entend ma voix, elle est contente.
Elle est contente.
Ouais.
Les choses sont apaisées.
Et ma tante aussi est très contente.
Ah, mais oui, tante Alice.
Tante Alice m'a appelée et puis elle est très très contente, très très fière.
Elle doit dire à tout le monde, mais moi je le savais.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi je lui avais dit.
je le savais.
Exactement.
Mais alors, puisqu'on parle de réussite, de triomphe, bon, cet amour du public, parfois, et vous avez traversé tout ça avec le premier album qui a été un tel triomphe, parfois cet amour du public, il peut être vampirisant, comme il l'a été par exemple pour Stromae. Trop de concerts, trop de foules hurlantes, partout dans le monde, une vie qui vous vide de votre substance. Bon, c'est le prix à payer. Plus on vole haut, plus on se brûle les ailes. Mais par exemple, Stromae, comment vous avez observé soudain cette espèce de, on va dire, d'explosion en plein vol, si haut? Il y a quelque chose d'Icare dans son histoire.
C'est désolant. C'était énorme aussi. Stromae, c'était fou ce qu'il vivait. La dernière tournée, où il est retourné dans son pays d'origine. Ça l'a totalement, je pense, ça a été compliqué pour lui, bien sûr. Et c'est triste qu'il ait eu tout un lâcher, enfin, une explosion, comme vous dites. Mais comment j'ai vu ça? J'ai vu ça comme... J'étais un peu... ça allait tellement vite pour lui, ça a tellement explosé, c'était tellement énorme que j'ai vu ça comme... ah ouais, putain, enfin... C'est triste, quoi. C'est fort.
Vous
c'est...
savez vous préserver?
Non, moi je me dis, je prends tout ce qui pourrait m'arriver. Je serais ravi de vivre les choses toujours un peu plus grandes. Je crois que c'est notre humanité est comme ça. Tant qu'on ne l'a pas vécu, nous, dans notre chair, personnellement, on a envie d'assouvir nos rêves les plus fous. Et moi, mes rêves, c'est de partager au maximum la musique et d'avoir des salles de plus en plus grandes avec de plus en plus de monde. Alors, c'est très égotripé, mais ça fait partie de mes réalisations personnelles, en tout cas.
Chanter à l'étranger?
Chanter à l'étranger, c'est pas un but en soi, mais pourquoi pas? J'avais chanté au Canada.
Oui, plusieurs fois. En un an, vous êtes allé faire 3 séries de concerts.
Ouais. On avait dû déplacer la salle parce que c'était trop petit dans une plus grande. Parce
c'est
que
chic.
La réception était très bonne, ça m'avait grave touché. Et c'est en français, donc j'ai encore du mal à percevoir comment on pourrait m'entendre en français, à part pour les expats, dans un autre pays.
Oui, mais en même temps, mais alors justement, vos questionnements, ils sont ceux de, c'est même transgénérationnel, de tant de personnes aujourd'hui. Et en même temps, je me dis, l'époque, elle est paradoxale, parce qu'on libère la parole de plus en plus, mais parallèlement à ça, tout le monde se divise en groupes identitaires qui s'affrontent. Donc la paix dont vous rêvez, cette harmonie, elle n'est pas prête d'advenir.
Oh bah, je crois qu'elle ne viendra jamais.
Jamais?
Bah, je crois que c'est pour ça qu'on se bat tous. Et voilà.
Jamais?
Jamais. Bah, je ne sais pas si c'est la manière de penser de chacun pour un jour être... on parle de différence, c'est ça qui est beau. C'est aussi d'avoir une multitude de discours, une multitude de pensées, de voir les choses. Ce qui est important, c'est comment tenter de se retrouver, mais... l'utopie de tout le monde penserait la même chose dans un pays des bisounours.
Non, tout le monde admettrait.
Ouais.
Pas ne penserait. Chacun aurait ses choix, ses convictions,
ouais,
son intimité,
ouais,
mais dans l'harmonie.
Ouais, j'espère en tout cas ça. Ça, c'est plus probable. J'espère.
On retrouve tout de suite Edith Préto.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Edith Préto. Je veux croire que c'est avec coquetterie que vous osez dire aux journalistes « Si j'ai pas de choses fortes à dire, il n'y aura sans doute pas 3e album ». En tout cas, j'imagine c'est pour nous signifier que vous avez mis votre sang, votre chair, votre âme tout entière dans celui-ci, à tous les bâtards, c'est pour ça?
Oui, bien sûr. Et que je ne me répéterai pas 20 fois, c'est que s'il n'y a rien de nouveau, de sujet inédit ou de façon de regarder les choses d'une autre manière ou qui évolue, ou des choses qui n'ont pas déjà été dites, je ne vais pas me répéter sur un 3e album. J'attendrai en tout cas d'avoir les bons titres.
C'est d'une honnêteté rare,
ah,
ce genre d'aveu. Mais oui,
ah ouais,
mais oui.
Moi, la petite chanson, toute mignonne sous toutes ses formes, ça me fait vite chier.
Est-ce qu'être heureux, Edith Préto, est-ce qu'être heureux empêche d'écrire des chansons fortes? Est-ce que le bonheur est un confort castrateur?
Oh là là, ça c'est une grande, grande question de philosophie. Je crois qu'en tout cas, ça aide à mieux voir la vie et plus la vivre plus facilement, être heureux. Mais bon, il y a toujours des angoisses qui arrivent. Comme je vous le disais en début d'émission, certaines se résolvent et d'autres s'émancipent de folie.
Bon, savoir qui on est, théoriquement, c'est le travail de toute une vie. Vous savez parfaitement, à 27 ans, qui vous êtes?
Oh, jamais de la vie.
Bon,
jamais
ça
de la
rassure.
Vie, je saurais. Et je crois que c'est une conquête, une quête de vie de savoir qui on est. Je pense que même à 70 ans, je ne saurais jamais qui je suis vraiment.
Ouais. La pochette de À tous les bâtards. C'est donc un portrait, votre portrait crayonné, délicieusement étrange, chelou diriez-vous, fait par une fan qui l'a posté sur Instagram. Qu'est-ce que vous pourriez accentuer, surligner dans ce dessin ? Vous, spontanément, si on vous remettait le dessin entre les mains avec un crayon ?
L'extrême mélancolie, le profond regard vers le bas, un peu triste, la mine triste. J'ai toujours été un peu comme ça. En tout cas, c'est ça qui ne m'a pas laissé indifférent.
Les 30 ans approchent très doucement. Hein. Vous avez encore 3 ans. Donc, mais même pas peur.
De mes 30 ans ?
Ouais.
Oh non, pas du tout.
Pas du tout.
Ouais, je suis content.
Ouais. Vraiment ?
Ouais. Ben, je crois que dans la vie, plus on se réalise aussi, plus on accepte nos âges. Et, moi, j'ai tellement... On dirait un vieux con. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu tellement... Enfin, j'ai vécu. C'est que j'ai fait énormément la fête. J'ai fait la teuf de ouf.
Oui.
Là, aujourd'hui, on ne peut plus la faire, mais je la referai. J'ai l'impression d'avoir abusé, voire pris toutes les minutes de ce que je pouvais prendre quand on pouvait le prendre. Et donc là, j'arrive et je suis content de découvrir potentiellement ce que je suis en train de découvrir bientôt à 30 ans, bientôt de suivre la force de l'âge. Et je trouve que c'est d'autant plus fort que de pouvoir totalement vivre ces choses-là et de les assumer et d'en être conscient jusqu'au bout des ongles.
Alors tout à l'heure, vous nous avez avoué votre intérêt immense, votre passion pour le cinéma, le théâtre, mais voilà, l'envie certaine d'investir des rôles, de jouer. J'imagine que vous avez été sollicité, bien sûr.
Bien sûr.
Et
je crois même avoir raté le rôle de ma vie.
Lequel ?
Je peux pas le dire.
Oh non. Un indice.
Sur la religion. Un film sur la religion. Voilà, je ne dirais pas plus.
D'accord.
Qui est sorti de ces dernières années. Ah là 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 là. Et j'avais un planning qui ne me permettait pas de pouvoir accepter.
Et vous avez dit non à François Ozon.
Je suis désolé.
Bon, mais ça veut dire mais ça veut dire que bon, ça veut quand ça commence ainsi, forcément, ça ne peut que s'ouvrir sur quelque chose de magistral, c'est-à-dire qu'on va revenir vers vous et peut-être d'ailleurs que
j'espère
vous êtes en train de nous cacher que des choses se tricotent du côté du cinéma.
Nous verrons.
Nous verrons. Il est incroyable ce garçon. En tout cas, ce que je peux quand même, j'ai le droit, Eddie Depreto, d'annoncer que la tournée, parce qu'on vous attend,
on vous attend
à travers toute la France, la tournée donc qui accompagne le nouvel album intitulé À tous les bâtards, elle démarre le 8 octobre au Zénith de Bordeaux. Mmh. Le lendemain, le 9 octobre, vous serez à Toulouse. Vous allez faire tous les Zéniths de France en passant par Paris. Paris le 28 octobre. Et cette tournée, elle prendra fin en février 2022. Ce sera le 2 février à Amiens.
Exactement.
Bon, vous commencez à prévoir ce que va être la scène, seront ces concerts.
Ouais, pile en ce moment-là, on est en train de prévoir avec mon scénographe avec qui je travaille pour la première tournée et il va me suivre sur la deuxième, de voir qu'est-ce qu'on va faire et comment on va mettre ça en image et en scénographie.
On sera là.
Ah, merci, j'espère.
Edith Prato, qu'est-ce qu'on a oublié de se dire ?
L'amour qu'on se porte.
Alors là, je reste sans voix, vous n'imaginez pas. Edith Prato, c'était magnifique de marcher comme ça avec vous, librement, cet après-midi, et de parler simplement des choses du cœur, de la vie, qui va, qui nous pousse, des envies, des rêves, de tout. L'album a pour titre À tous les bâtards. Franchement, faut l'écouter en boucle. À très vite.
Merci, au revoir.